RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Oui, grand reportage. Nous sommes aujourd'hui en Inde. Ils sont environ 40 000 dans tout le pays, soit une infime minorité à l'échelle de la population. Encore méconnue en dehors des frontières du sous-continent et même en Inde. Les Sidis sont les descendants d'esclaves, mais aussi des mercenaires et des marchands africains arrivés, pour certains, dès le XIIIe siècle. Ils vivent aujourd'hui en petites communautés, éparpillées principalement dans des régions reculées de l'ouest et du sud du pays, dans des conditions souvent difficiles, plus ou moins intégrées dans la société indienne. De leur continent d'origine, ils ont conservé leurs traditions de danse et de musique, qui reste également un de leurs principaux moyens de subsistance. Mais certains Sidis se mobilisent, se battent aujourd'hui pour aider et unir leur communauté. Les Sidis, la diaspora africaine d'Inde en quête d'identité. Grand reportage signé Antoine Guinard, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Vassim Jamadar n'est encore qu'un novice, mais il compte bien contribuer à faire renaître la malunga, un des instruments qui fait la fierté de sa communauté. Dans sa chambre, en terrasse de la maison familiale à Bhuj, au nord-ouest du Gujarat, cet employé de banque de 29 ans s'entraîne dès qu'il a un moment de libre et évoque avec passion la quête de ses racines à travers la musique, une quête qu'il a entamée récemment.
J'ai appris à jouer de cet instrument et j'ai donné des concerts en Inde et aussi en Afrique en 2012. Pour moi, c'était une expérience unique. Tout d'abord, parce que je suis revenu sur la terre de mes ancêtres. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de jouer de la malunga là-bas. Le public était content de voir cet instrument et surtout de savoir qu'après plusieurs siècles, la culture africaine était encore présente en Inde.
Combien de gens jouent de la malunga aujourd'hui en Inde?
Environ 10 ou 11, je crois. Pendant longtemps, personne ne jouait de la malunga à Bhuj. Mais en 2012, j'en ai joué pour le Festival de l'Ours. Et tout le monde était très heureux d'entendre cet instrument à nouveau.
Vassim nous emmène ensuite à quelques minutes de marche de chez lui à la Dargah Sidi de Bhuj. Ces lieux saints musulmans soufis, comme il en existe beaucoup en Inde, ont une particularité chez les Sidis. Ils sont dédiés à Bavagor, un marchand éthiopien qui, selon la légende, aurait atteint les rivages du Gujarat au XIVe siècle. C'est au cœur de la Dargah que se trouvent et se jouent les instruments Sidis, un des seuls liens qui restent avec l'Afrique, hormis leur patrimoine génétique.
Cette noix de coco est appelée Maïmishra, du nom de la sœur de Bavagor. Cette conque, on appelle ça Nafil. Et ce gros tambour est appelé Mugurman.
Vassim n'est pas le seul à avoir traversé l'océan pour retrouver ses racines. Dans le quartier de Patarkuva, au cœur d'Ahmedabad, la capitale régionale du Gujarat, vit Rumanaben Bilal. Cette matriarche, qui possède un vaste répertoire d'hymnes traditionnels, a fait partie d'une tournée internationale de musiciens Sidi en 2002. Un projet qu'il a mené en Europe, mais aussi au Sénégal.
J'étais heureuse quand j'étais là-bas, car il y avait des Africains partout et les gens appréciaient notre musique.
Comment vous vous êtes sentie quand vous êtes allée en Afrique ?
J'étais tellement heureuse, tout le monde me ressemblait. Le seul problème était que je ne connaissais pas la langue et ne pouvais donc pas communiquer. Mais pour moi, c'était comme revenir sur la terre-mère. À l'aéroport au Sénégal, les douaniers m'ont demandé « Comment se fait-il que vous ayez un passeport indien ? Vous êtes africaine ? Comment êtes-vous devenue indienne ? Il n'y a pas d'Africains en Inde ?»
Allah ya la salmini
En Inde, depuis des siècles, les Sidis ont adopté les langues indiennes des régions qu'ils habitent. Seuls quelques mots de Swahili, langue parlée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, ont survécu à travers la musique.
J'étais intéressée depuis l'enfance par la musique et la culture Sidi. C'est ma mère et ma grand-mère qui m'ont appris ces hymnes. Je les connais tous, encore aujourd'hui. Un répertoire de 125 chansons.
Si les traditions orales s'effacent peu à peu avec le temps, un lieu en Inde reste un symbole indéboulonnable de la présence historique des Africains dans le pays, le fort de Murudjanjira. Situé à 200 km au sud de Bombay, cette citadelle est construite sur un rocher à quelques centaines de mètres de la côte. Elle a été fortifiée par Malik Ambar, un Éthiopien arrivé en Inde en tant qu'esclave au XVIe siècle et devenu par la suite un redoutable mercenaire et chef de guerre. Janjira et son armée Sidi a longtemps résisté aux assauts répétés des Portugais, des Anglais et des souverains indiens locaux. La famille royale de Janjira est d'ailleurs une des rares dynasties Sidi d'Inde qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Les Gotekers sont la seule famille Sidi qui habite encore la ville de Murud. Pour Abdullah Ibrahim, bientôt 80 ans, ils sont la preuve de la continuité des rapports entre l'Afrique et cette région de l'Inde.
Des familles indiennes sont établies en Afrique, comme l'oncle de ma femme par exemple. Beaucoup de gens sont partis d'Inde pour s'installer en Afrique et vice-versa. Ces migrations ne sont pas nouvelles. Ma mère, qui est établie en Inde, a de la famille qui est en Afrique, installée et mariée là-bas.
Sa mère, Mariam Bi, est encore en vie à peut-être plus de 100 ans passés. Son père, à elle, est parti de Murudjanjira pour trouver du travail en Afrique et a épousé une seconde femme à Dar es Salaam en Tanzanie, où Mariam Bi est née de cette union. Renvoyée en Inde à l'âge de 4 ans avec son frère aîné, elle n'est plus jamais revenue en arrière.
Je verrai ma famille en Afrique quand je mourrai. Ils ne sont plus là. Ça ne sert à rien de penser à eux. Maintenant, je suis en Inde.
L'Inde n'est toutefois pas toujours accueillante pour les Sidi qui vivent encore, pour la plupart, en marge de la société. La pauvreté est en effet le lot d'une grande majorité d'entre eux. Ils travaillent souvent en tant qu'ouvriers agricoles, domestiques ou chauffeurs de rickshaw. À Patarkuva, où vit Rumana Ben Bilal, la musique rythme la vie mais n'est bien souvent pas une priorité pour les quelques 40 familles Sidi qui vivent dans la précarité. Comme dans tous les quartiers pauvres d'Inde, les enfants abandonnent pour la plupart leur scolarité très tôt, faute de moyens. Mohamed Asif, qui tient un stand de tabac, est un des rares pères à soutenir ses deux filles adolescentes, Taslim et Jasmine, qui veulent faire des études de médecine et d'infirmière.
La plupart des gens ici sont des ouvriers recrutés à la journée. Ils n'ont pas d'argent pour l'éducation car ils gagnent 300 roupies par jour, donc ils ne peuvent pas épargner. S'ils ne travaillent pas pendant une semaine, ils ne peuvent pas se nourrir.
À quelques maisons de là, Firoza Makwa est venue rendre visite à sa mère. Cette mère de famille de 40 ans, au regard rieur mais déterminé, habite maintenant Bombay, où son mari, Abdul Raouf, est le recteur d'une des principales dargas de la ville. Elle se plaint du manque d'enthousiasme de ses deux fils pour les études.
Il faut que les Sidi étudient, sinon ils ne pourront pas avoir accès à des emplois corrects. Mais mes fils ne pensent qu'à la musique. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ils ne veulent pas étudier.
L'importance des études, de l'éducation, Mohan Sidi en a pleinement conscience. Cet étudiant de 28 ans prépare son doctorat, un fait rare pour quelqu'un issu de sa région reculée de Yelapur au Karnataka, où les Sidi vivent particulièrement repliés sur eux-mêmes. Il a un projet bien précis en tête, créer un réseau pour les Sidi de toute l'Asie du Sud, afin de souder, éduquer et donner un poids politique à la diaspora africaine dans la région.
Grâce à cette musique de Sidi Goma, les Sidis du Gujarat ont affirmé leur identité. Au Karnataka, nous n'avons pas cette fierté d'être Sidi. Mais je me bats depuis 2010 pour que les gens prennent conscience de leur identité. Et ça commence à changer, parce que chez nous, les Sidis sont synonymes de main-d'œuvre bon marché. Au Gujarat, il y a plus d'opportunités professionnelles, comme ici à Bombay, où plusieurs Sidis se sont installés. Mais au Karnataka, ce n'est pas le cas, car il y a 50 autres communautés tribales qui, elles, ont des liens avec les politiciens. Et en Inde, il faut toujours payer des pots de vin pour obtenir quoi que ce soit.
Mohan a prévu d'inaugurer son organisation dans les semaines à venir en partenariat avec son associé Mohamed Siddiqui, dit Sabu, un Sidi de Bombay qui travaille pour un élu local et partage les mêmes idées que Mohan.
Notre objectif principal, c'est d'éduquer nos enfants. Ils font tous de la musique et de la danse. C'est bien, ça fait partie de notre culture, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus, il faut étudier.
Comme eux, d'autres Sidis se battent pour faire valoir leurs droits et notamment obtenir ces fameux quotas à l'emploi et dans l'éducation réservés par le gouvernement aux communautés défavorisées en Inde. Pour l'heure, le damal, la danse et la musique restent le pain quotidien de nombreux Sidis. À quelques pas du bureau de Sabu dans le quartier musulman de Dongri à Bombay, Abdul Raouf prépare les percussions au sein de la darga. Pendant que sa femme, revenue d'Ahmedabad, lance des regards sombres à ses fils. Pour le recteur, qui arbore fièrement son mulet bouclé, la musique et les rituels sont indissociables de la culture et de l'identité Sidi. Une tradition qui remonte aux ascètes itinérants, les fakirs, qui venaient jouer de la malunga dans les villages et bénissaient les habitants en échange d'argent ou de nourriture.
On dépend de la musique pour vivre, et ce depuis l'époque de nos grands-pères. À l'époque, c'était le seul moyen de nourrir sa famille.
Mais Abdul Raouf est également conscient des angoisses de sa femme et sait que ses craintes sont fondées concernant l'éducation de ses enfants. S'ils se sentent africains, les Sidis n'ont après tout d'autre choix que de vivre en Inde, même s'ils y subissent des discriminations.
Ici, on nous appelle les nègres de l'Inde. On n'a pas accès aux privilèges, aux emplois dans la fonction publique. Nous ne sommes pas respectés en tant que citoyens de ce pays. Et en Afrique, les Sidis seraient incapables de s'adapter car ils sont de culture indienne. Je veux que ma communauté obtienne de la reconnaissance, qu'elle se développe, parce qu'il y a vraiment un manque de personnes éduquées. Les enfants qui ont accès à l'éducation ne montrent aucune motivation, et ceux qui veulent s'éduquer n'en ont souvent pas les moyens.
Quatre jeunes hommes Sidis sont venus de Jambour au Gujarat, un village surnommé Little Africa, à deux pas de la dernière réserve des lions asiatiques. L'un d'entre eux, Ahmed Razak, sans emploi hormis celui de musicien occasionnel, résume laconiquement la situation avec une pointe de fatalité dans la voix.
Le damal, la musique, c'est très important pour nous. C'est une tradition de nos ancêtres, ça coule dans nos veines.
Pour lui comme pour beaucoup d'autres, la musique est synonyme de pain quotidien. Un besoin bien plus pressant que celui de préserver les traditions de sa communauté. Les Sidis, la diaspora africaine d'Inde en quête d'identité, c'était un grand reportage en Inde d'Antoine Guinard, réalisation Eva Moshinsky.
Antoine Guinard, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors on désigne par Sidi les descendants d'Afrique donc, mais peut-on parler d'une communauté homogène, comme peuvent l'être d'autres diasporas à travers le monde ?
Cette identité Sidi, qui s'applique à toute personne indienne d'origine africaine, est bien réelle, mais il faut garder en tête que les Sidis sont plus indiens qu'africains et vivent dans différentes régions, parfois à des centaines de kilomètres les uns des autres, avec toutes les différences culturelles que cela implique dans un pays comme l'Inde. au Gujarat, ce sont en majorité des musulmans soufis qui se marient entre eux, se connaissent et participent au même festival, même s'ils habitent à plusieurs heures de route. Ils se mélangent plus avec la communauté indienne musulmane, y compris pour les mariages, et entretiennent généralement de très bons rapports avec tout le monde. Malgré cela, certaines communautés de la région, comme celle de Jambour, près de la réserve de Lion Asiatique, restent plus isolées. Au Karnataka, l'état où on trouve la deuxième plus grosse communauté Sidi du pays, ils vivent à l'écart dans des villages où il n'y a que des Sidi et ils ne sont pas du tout intégrés. Comme leur situation financière ne leur permet pas de voyager, les Sidi du Gujarat et du Karnataka se rencontrent rarement, voire ignorent l'existence des uns des autres.
Cette autre question, Antoine, comment sont-ils perçus par le reste de la société indienne ?
Ils sont généralement assez mal considérés, à la fois parce qu'ils sont pauvres et qu'en Inde les rapports entre riches et pauvres restent plus violents, plus hiérarchisés qu'en Europe par exemple, mais aussi à cause de leur couleur de peau qui est un élément handicapant supplémentaire dans un pays où il y a un certain racisme anti-africain. Mais comme je vous disais, dans certaines villes du Gujarat par exemple, ils peuvent être très bien intégrés. La plupart des Indiens perçoivent les Sidis comme une tribu ou une communauté un peu à part, sans forcément connaître ou s'intéresser particulièrement aux raisons historiques de leur présence en Inde.
Enfin Antoine, les Sidis se sont fait connaître surtout par la musique. Vous avez notamment évoqué une tournée internationale dans votre reportage. Est-ce que cette renommée, cette exposition a changé quelque chose de leur situation ?
Certains musiciens, notamment la troupe de Ratanpur au Gujarat, jouent maintenant régulièrement depuis cette tournée internationale. D'autres troupes ont également pu en profiter ces dernières années et ont été invitées à jouer un peu partout en Inde et également à l'étranger. Mais il faut rappeler que depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, des groupes de musiciens et des danseurs Sidi sont régulièrement invités à danser pour la journée de la République. Certains ont joué pour Nelson Mandela ainsi que d'autres dignitaires africains en visite en Inde par le passé. Donc ce n'est pas vraiment nouveau, même si ça s'est un peu accéléré, notamment avec la sortie d'un premier disque Sidi Goma il y a une dizaine d'années. Goma qui signifie « danse » en Swahili et qui a été repris par tous les musiciens Sidi depuis. Mais on ne peut pas dire que ça ait vraiment amélioré le sort des Sidi ou que ça ait réellement créé de l'emploi. Certains disent même, vous l'avez vu dans le reportage, que cette exposition médiatique encourage les jeunes à jouer de la musique au détriment des études.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage à réécouter dans son intégralité sur RFI.fr. Antoine Guinard, merci beaucoup.
Des musiques noires.